gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, vous êtes bien sur l'envolée, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, donc pour notre émission de rentrée. Donc pour nous écrire, notre nouvelle adresse c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Pour nous appeler, alors pendant l'émission en direct, c'est au 01 40 05 06 10. Et sinon pour nous contacter à tout moment sur un portable, c'est au 07 52 40 22 48. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différentes plateformes, voilà, si vous voulez nous snapper et compagnie. Voilà, pour nous envoyer des messages, n'hésitez pas. Je crois que c'est envolée IDF pour le snap. Et
l'envolée.net sur le site internet. Le Facebook, c'est l'envolée journal. Il y a Twitter, ça doit être aussi l'envolée journal. Voilà, on est partout. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. On va pas faire de la pub aux GAFA, mais vous voyez tous les trucs.
Voilà, et donc pour cette émission de rentrée, il y a du monde, même s'il y a quand même des grands absents et des grandes absentes. Il y a du monde autour de la table et autour de la salle à la fenêtre et tout. Donc il y a la Hess qui est avec nous.
Merci, bonsoir.
Bonsoir. Okay. Il y a Charlotte.
Salut.
Il y a Manu.
Salut.
Il y a Greg.
Salut.
Il y a Mauve.
Salut.
Et il y a Serge. Et Arthur au bocal.
Ouais, salut.
Salut.
Et y a moi, Arthur, aussi, voilà, qui suis en train de vous parler. Et donc, aujourd'hui, avec cette émission de rentrée, on a plein de trucs à vous dire, donc ça va sûrement être un peu le bordel, on n'aura sûrement pas le temps de tout vous dire. Mais pour vous dire un peu le plan de l'émission, qu'au début, on a quelques brèves, quelques news, on a une lettre à vous lire de l'infâme qui s'est fait transférer là récemment. Quelques infos sur les trucs dont on parlait à la dernière émission aussi à donner. Après, on veut parler de ce qui s'est passé, parce que les parloirs ont continué à être dégueulasses pendant tout l'été. En fait, il n'y a toujours pas de parloirs comme avant le Covid qui sont revenus, donc il y a eu pas mal de mouvements contre ça. On va en parler. On va aussi parler d'une copine qui s'est fait arrêter, extrader pendant l'été. Et après, à la fin, on parlera des centres de rétention et de pas mal de mouvements collectifs qui ont eu lieu, pareil, liés à des cas de Covid à l'intérieur et le fait qu'il n'y a aucune libération ni aucune expulsion. Et donc, il y a les prisonniers qui ont bougé dans pas mal de centres de rétention et en lien les uns avec les autres.
Ouais, et puis ça fait un peu bizarre parce qu'en fait, on se retrouve 2 mois après. Et en fait, on a l'impression de faire exactement la même émission qu'il y a 2 mois. Voilà, c'est un truc de ouf, comme il n'y a absolument rien qui a changé et tout. Voilà, cette année ça va être un peu différent des 2 dernières années et tout ça, où en fait il n'y aura pas d'émission tous les vendredis en direct. Il y aura quasiment tous les vendredis, sauf le dernier vendredi du mois, qui sera enregistré par d'autres copains de l'Envolée qui viendront animer l'émission et tout ça. Donc voilà, qui sera une émission qui sera enregistrée. Et donc voilà, on va se coordonner comme ça. Donc ça, c'était un peu pour les news. Voilà. Et surtout, il y a un journal qui est en préparation. Et donc, on devrait se retrouver... assez rapidement, mais en tout cas voilà, il y aura un nouveau journal avant de la fin de l'année, voilà, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Du coup, voilà. Si vous avez des choses à nous écrire pour le journal, voilà, c'est le moment. Et aussi, vu qu'on a eu pas mal de retours de l'intérieur, si vos adresses ont changé, enfin, s'il y a des, vous avez entendu parler de transfert et tout, faut vraiment mettre les adresses à jour, parce qu'on a beaucoup de retours, notamment de gens parfois qui ont été transférés. Donc voilà, si jamais vous avez ce genre d'infos, c'est le moment aussi de nous les envoyer, qu'on se mette à jour avant l'envoi.
Grave, cet été on a fait un peu le point sur les adresses et tout, et il y a vraiment plein de fait, vu qu'on fait un peu des journaux moins régulièrement, il y a plein d'adresses qui ont été perdues d'une certaine manière par des gens qui ont été transférés et autres, ou qui sont sortis, et ça c'est toujours une bonne nouvelle. On peut d'ailleurs commencer avec cette petite brève. Où il y a Rossou, qui était un prisonnier basque qui a été libéré cet été, qui était à la prison de la Santé. Voilà, on avait déjà fait des petites brèves et tout ça, mais donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, on va pas refaire toutes les turpitudes de la justice française et puis et tout ça, mais c'était un peu n'importe quoi. Il l'avait libéré pour le récupérer 24 heures après, il y a à peu près un an. Enfin bon, voilà, c'était vraiment absolument n'importe quoi. Mais donc là, cet été, enfin, il a été libéré. Ça veut pas dire que c'est la fin, parce qu'il y a encore plein de procédures qui lui sont imposées. Mais au moins, il va pouvoir comparaître libre dans les tribunaux et autres. Et voilà, et en tout cas, voilà, ça fait partie des bonnes nouvelles, et c'est cool de commencer l'émission par cette bonne nouvelle. Je crois, Arthur, tu avais une autre bonne nouvelle qui faisait plutôt plaisir.
Ah oui, effectivement. Ouais, donc, on en avait parlé, il y a un nouveau plan prison, enfin un énième nouveau plan prison. Ils vont construire de nouvelles tôles un peu partout, voilà, faire encore de plus de place à surpeupler. Et une de ces tôles, donc, le projet à Perpignan.
C'est ça.
Et donc, en fait, ils sont en stand-by parce qu'il y a un couple d'oiseaux très rares, bon, dont j'ai oublié le nom, voilà.
Qui est imprononçable, d'ailleurs.
Voilà, un oiseau imprononçable, mais qui est protégé par je ne sais pas quelle loi environnementale, et qui fait que les travaux sont à l'arrêt et qu'ils sont obligés de demander je ne sais pas quelle autorisation pour pouvoir expulser les oiseaux, mais qu'en attendant, du coup, il y a d'énormes retards sur le chantier. Le chantier est à l'arrêt, donc voilà, force aux oiseaux, et voilà, on espère que des gens viendront défendre leur nid et que ce chantier sera à l'arrêt pour voilà, encore de très très longues années.
Grave. Et juste pour dire, leur parler de Perpignan, c'est vraiment une catastrophe ce qui se passe en ce moment là-bas, et particulièrement il y a d'énormes punaises de lit pendant tout l'été, et ça a été l'enfer, voilà. Et donc c'est aussi pour rappeler cette tôle là-bas qui fait partie des tôles les plus crates de France, voilà.
Par rapport aux tôles les plus crasses de France, que c'est un des trucs dont vous voulez parler, c'est la dernière émission, je crois, l'avant-dernière, il y a Khaled, un jeune de 20 ans qui était mort dans l'incendie de sa cellule à Villepinte. Et Villepinte, on l'avait déjà dit à l'époque, c'est une des tôles les plus vétustes de France. Et du coup, il y a eu quand même quelques enquêtes qui ont été menées, qui ont révélé que, bon, ce qu'on savait déjà, qu'en fait, tous les circuits électriques sont pourris, qu'en fait, il n'y a aucun système d'alarme qui marche. D'ailleurs, un des trucs, parce que ce qui s'est passé, c'est donc qu'il est mort dans l'incendie de sa cellule, et que les matons ont mis des heures à intervenir, enfin, en tout cas, vraiment beaucoup, beaucoup de temps à intervenir, qu'ils ne savaient pas du tout comment intervenir ni où intervenir. Et donc, il y a des expertises là, qui ont été rendues qui disent que, effectivement, ils sont incapables de... Enfin, là, la prison en l'état n'est pas du tout habitable. Mais derrière, bien sûr, le référé liberté qui a été posé par un des prisonniers qui, après ça, a déposé plainte, a été rejeté. Et donc, la justice considère que même si l'endroit est invivable, on peut continuer à y enfermer des gens, et notamment la plus de 800 prisonniers qui sont enfermés en ce moment, toujours dans cette prison de Villepinte, où à tout moment, c'est ce qu'ils disent, on sait qu'il peut arriver un truc et qu'il n'y aura personne pour venir... vous ouvrir la porte. Quoi.
Et il semblerait qu'il y ait eu un non-lieu sur l'enquête qui était menée à la suite de la mort de Raled. Et on confirmera cette information. Mais en tout cas, on place plein de pensées tout d'abord aux prisonniers qu'ont vécu à ce moment-là, et aussi tous les proches, et en particulier sa mère qui est au bled et pour qui ça a été l'enfer. On va donc commencer, parce qu'en fait on aurait dû commencer par ça, par une lettre de l'infâme.
Donc une lettre de l'infâme. Coucou les loulous. Eh ouais, l'infâme est de retour. Coucou. Salut l'équipe. Je vous écris car, comme vous le savez, j'étais transféré à Vadin-le-Vieil. Un motif qu'il fallait, soi-disant, faire de la place au QD de Lannesan. J'étais normalement prévu pour intégrer initialement la centrale de Poissy, qui sous peu va devenir un centre de détention, mais à Lannesan, ils m'ont dégagé de là-bas pour m'envoyer dans ce mur à ciel ouvert où nous sommes traités comme des bêtes sauvages, ce que je ne peux accepter, car en plus, ça me prive de tout espoir de réinsertion. Si j'avais intégré Poissy, pour faire court, j'aurais pu sortir en conditionnel entre 2021 et 2022. Sauf qu'en étant détenu à la centrale et restant sous le statut de détenu en centrale, tout ceci s'évapore d'un claquement de doigts. Vu que les reliquats ne sont pas les mêmes, et donc en restant détenu à la centrale, je ne peux espérer sortir en conditionnel avant 2027, voire 2028. C'est fou. C'est pourquoi je pousse un coup de gueule contre ces enfoirés qui m'ont niqué mon projet de sortie de réinsertion. Et je crie par là même haut et fort que Vandin est une prison où règne l'hypocrisie et la provoque, ainsi que le sentiment que, quand un détenu arrive ici, c'est le terminus. Ce qui ne présage donc rien de positif. Je le ressens, ça. Je vous le confirme. C'est la merde ici. C'est fou. Le week-end dernier, en 2 jours, on m'a privé 3 fois de repas, gratuitement, par pure méchanceté. On a accès à la téléphonie en cellule, à Vandin, en détention ordinaire. Les détenus ont accès à la téléphonie en cellule 24h sur 24, 7 jours sur 7, à 365 jours par an. Mais ici, à l'isolement, je suis encore isolé, vu que je suis isolé ministériel. L'ensemble des détenus au QI, peu importe leur statut, DPS ou non, calme ou non, est privé de la téléphonie dans les termes qui devraient être les mêmes partout. On a des heures qui nous sont imposées et des coupures entre midi et 14h, et le soir à partir de 18h. C'est inadmissible. En faisant ainsi, vu que c'est une mesure qu'a prise M. Vernet, le chef d'établissement, on peut très facilement dire que le directeur, sans motif qui le justifie, viole un des fondamentaux de nos droits, le maintien des liens familiaux. Je ne peux pas accepter ça. C'est illégal ce qu'il nous fait. Chacun de nos mouvements doit se faire menoter, même à Lannesan. J'ai jamais eu de mesure de gestion menottée, même pour un truc basique, la prise des repas. Si au moment du repas, on ne veut pas être menotté, pour ne pas tout simplement ressentir ce sentiment d'être abaissé au rang de bête sauvage, eh bien il nous ouvre pas la porte. Il nous donne notre repas à travers la trappe passe-menotte. Tout simplement, il n'ouvre pas la cellule, referme la trappe à menotte et il se casse, te privant ainsi de repas. Une telle gestion m'est insupportable. Elle est révoltante, mais à croire que ça ne révolte que moi ici. Et c'est donc pour toutes ces choses, mises bout à bout, que depuis lundi, je me suis mis en grève de la faim. Pour contester, il advienne que pourra. Je conteste dans le calme, mais bon, je ne me fais pas d'illusions. Je suis quasi certain que rien ne va changer. C'est l'impression que j'en ai. On verra bien, dans le calme, pour le moment. On verra ensuite. Sinon, hormis tout ça, ça va. J'essaie de tenir le coup. Mais c'est dur dans un tel contexte. Mais pour le moment, je tiens. C'est le principal. C'est donc mon coup de gueule face à toute cette injustice qui m'est faite gratuitement. Je termine cet écrit, comme d'habitude, en ayant une pensée pour toutes les incarcérées, donc enfermées. Tenez le coup, les filles. Force et courage à vous toutes, vous êtes des lionnes. Tenez bon. Tout comme j'adresse une pensée à tous les gros, les bonhommes enfermés, et qui ne me laissent pas faire face à l'injustice et à l'adversité. Courage, tenez bon, les gars. On les aura à l'usure, mais on les aura quand même. Force et courage à vous. Enfin, merci à l'équipe de l'Envolée de faire entendre nos voix et ma voix. Continuez à nous soutenir, on a besoin de gens tels que vous. Big up à vous, et courage à tous les détenus. Enfin.
Bah merci. On sait que c'est chaud et que le transfert pour toi ça a été l'enfer. C'était. En fait, tu demandais un transfert depuis longtemps. Voilà. Et ils t'ont foutu le transfert de merde, quoi. Voilà, comme souvent, ils savent se venger sur ce genre de truc. Et ils te lâchent pas. Et voilà.
D'ailleurs, ouais, parce que c'est bien ce qu'il dit, quoi. C'est que Gandin, c'est vraiment une punition qui. Enfin, comme. Fin...
Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu des embrouilles avant avec. Et il est retombé sur un surveillant avec qui il avait déjà eu des problèmes dans je sais plus quel tout le dit de France. Et donc là, ça a été la décision de le transférer, mais le transférer disciplinairement dans un autre endroit que celui dans lequel c'était prévu. D'autres nouvelles qu'on voulait donner, c'est quelqu'un d'autre qui a été transféré. On vous le disait, voilà, c'était Fabrice. Merci pour tes lettres durant l'été. Voilà, on souhaite plein de force. On sait que c'est toujours la merde, c'est toujours l'isolement et tout. Mais voilà, force, bats-toi et courage papillon, comme on dit. Et on va passer aussi à d'autres nouvelles qui sont pas ouf, des poteaux. Voilà, si tu veux nous en parler, Manu, un petit peu.
Je te prends le cours. Complètement. Du coup, on va parler de Carla qui s'est fait arrêter le 26 juillet dernier à Saint-Étienne. Elle était recherchée depuis le 7 février 2019 dans le cadre d'une opération répressive qui a eu lieu en Italie. Donc ce 7 février 2019, il y a 6 personnes qui ont été arrêtées en parallèle de l'expulsion d'un lieu occupé à Turin, qui était occupé depuis 1995.
On avait pas mal parlé à ce moment-là, on avait lu quelques communiqués.
Et ces arrestations donc, de ces 6 personnes, plus Carla qui était recherchée, ça fait suite à une enquête sur la publication d'une brochure qui recensait les entreprises qui collaborent en Italie aux expulsions de sans-papiers. Et la presse dit qu'il parle de 21 attaques incendiaires contre ces entreprises entre 2015 et 2018. Et Carla et une autre personne arrêtée, Sylvia, sont accusées de transport et dépôt de matériel incendiaire contre des distributeurs de La Poste. La Poste qui en Italie possède une entreprise spécialisée dans les expulsions, une entreprise d'aviation spécialisée dans les expulsions. Voilà, elles ont été accusées sur la base de reconnaissance anthropométrique et Sylvia elle a fait 8 mois de prison en haute sécurité, en isolement, à la prison de L'Aquila, dans une section spéciale qui a été fermée suite à une grève de la faim auquel... qui a été menée par Sylvia et d'autres détenus, qui ont écrit beaucoup de lettres qui dénonçaient les conditions dans lesquelles elles étaient enfermées et puis la prison en général. Donc Carla elle était recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen avec une demande d'extradition de l'Italie. Et les flics la recherchaient. Ils avaient notamment mené des tentatives d'arrestation à l'automne 2019 chez ses parents et puis dans un lieu occupé à Romainville. Et là, elle était arrêtée à Saint-Étienne donc, par la BRI et par des flics de la BRI et de la DGSI qui étaient armés jusqu'aux dents. Elle a ensuite été transférée au commissariat de la sous-direction antiterroriste à Levallois-Perret. Puis présenté au TGI, au tribunal de Paris, par rapport à la demande d'extradition. D'ailleurs, elle est passée au TGI le même jour et dans la même chambre d'audience que la personne dont on a parlé tout à l'heure, qui a été libérée suite à cette audience. Et ensuite, donc l'extradition, elle l'a acceptée et elle a été incarcérée à la maison d'arrêt des femmes de Fresnes en attendant que cette extradition ait lieu. Donc elle a été incarcérée sous mesure de confinement sanitaire en quatorzaine. Et puis le 11 août, il y a eu une deuxième quatorzaine qui a été décrétée pour toutes les détenues tout le groupe de détenues avec lesquels elle était, puisqu'il y a une des détenues qui a été testée positive au coronavirus. Donc à ce moment-là, ils ont suspendu les parloirs. Il y avait eu des parloirs avant, là ils les ont suspendus. Pendant une bonne dizaine de jours. Ils ont été rétablis ensuite quand les résultats du test Covid négatif sont arrivés. Donc on, les parloirs avec hygiaphone, masque, sans possibilité de se toucher, etc. Et cette deuxième quatorzaine, elle a duré jusqu'au 24 août. Et le lendemain, elle a été extradée en Italie, dans une prison près de Milan, à Vigevano. Donc là, elle est là-bas. Elle est dans un module AS3, donc c'est un quartier de haute sécurité. Donc il y a plusieurs types de modules de haute sécurité en Italie. Il y a AS3 et AS2. Les AS3 sont sont réservés pour les prisonniers et les prisonnières qui sont accusés par l'État italien d'appartenir à la mafia, tandis que les AS2 sont... Dans les AS2 sont enfermés les détenus qui sont considérés comme des détenus politiques par l'État italien. Mais pour les femmes, ils n'existent quasiment plus, puisque donc il y avait le module à l'Aquila où était enfermée Sylvia qui a été fermé. Et après, il y en a deux autres, mais il y a d'autres... Il y a deux autres personnes qui sont enfermées dans ces modules, et donc l'État italien pratique le truc de dispersion, d'isoler les militants anarchistes et tout, pour pas qu'ils soient enfermés ensemble. Donc c'est pour ça qu'elle a été enfermée là-bas et dans un module AS3. Donc elle est en isolement. Enfin, c'est un module d'isolement, et en plus, elle doit se retaper une nouvelle quatorzaine, donc une troisième quatorzaine. Il n'y a pas de courrier, mais il y a eu un rassemblement dimanche dernier devant la prison, où il y a eu des communications entre l'intérieur et l'extérieur. Et voilà, quand elle était enfermée à Fresnes, il y a eu à plusieurs reprises des feux d'artifice aussi qui ont été tirés sous les murs de la prison. Et juste avant son extradition, donc elle a écrit une lettre publique que du coup je vais lire maintenant. Salut, après 536 jours de cavale, j'ai été arrêté le 26 juillet dernier près de Saint-Étienne. J'ai vécu l'arrestation comme la première représentation d'une scène répétée 1000 fois dans ma tête, ou plutôt 536 fois. Tout m'a semblé se passer au ralenti. Les keufs cagoulés qui me braquent avec leurs fusils me mettent à terre et me demandent ce nom que j'ai si souvent tu ces derniers temps. Ça m'a fait un drôle d'effet de le prononcer. J'ai ensuite été amené à Paris par la sous-direction antiterroriste, 4 heures de trajet menottées dans le dos en compagnie de leurs cagoules. Ils m'ont bandé les yeux sur les derniers kilomètres qui nous séparaient de leurs locaux de Levallois-Perret. Ce sont eux qui m'ont conduit au tribunal le surlendemain de l'arrestation, puis à la prison de Fresnes. Lors de l'audience, j'ai accepté sans hésiter l'extradition. J'avais suivi avec attention les événements autour de l'arrestation de Vincenzo Vecci, que je salue au passage. Il avait pour sa part refusé, s'offrant une chance de rester libre en France. Pour moi, le choix se résume à attendre le procès en France ou en Italie, où se trouvent les autres inculpés de l'opération Scintilla, tous et toutes libres à l'exception de Sylvia, encore soumise à un contrôle judiciaire. Il me semble que ces derniers temps, l'exécution par mandat d'arrêt européen et l'extradition qui en découle sont devenues de simples formalités pour la justice européenne. Nous l'avons vu récemment en Italie à plusieurs reprises, mais aussi à l'occasion de la répression qui a suivi les émeutes de Hambourg, ou bien en Grèce et en Espagne. Les polices européennes affinent leurs armes et leur collaboration semble se faire plus étroite, s'échangeant tuyaux et services. Dès lors, il me semble qu'il nous appartient de nous pencher sur la question et d'en étudier les mécanismes. Je découvre la prison au temps du coronavirus, la quatorzaine réglementaire au quartier des arrivantes, le masque lors de tous les déplacements, y compris la promenade pour cette durée, la suspension de toutes les activités, la cellule 22 heures sur 24. Au terme de ma quatorzaine et à la veille de la date programmée de mon extradition, les autres arrivantes et moi avons été placés à l'isolement sanitaire au motif que nous avions partagé une promenade avec une nouvelle arrivante qui s'est révélée infectée. Des tests ne nous ont été proposés qu'une fois ce cas avéré. Ils sont depuis la règle pour toute nouvelle arrivante. À nous, on avait initialement dit qu'on ne pouvait tout de même pas tester tout le monde. Sans surprise, il semble que l'administration pénitentiaire est en train de retard. Au printemps, les mesures prises par l'administration pénitentiaire en réaction à l'arrivée du coronavirus ont porté à des situations de mutinerie, de révolte et de solidarité. Malheureusement, ici en tout cas, il semble que vivre avec le virus est devenu la norme, et la crainte qu'une nouvelle arrivante puisse amener le virus se double de celle de se voir suspendre les parloirs, comme cela a été notre cas cette semaine. Les maigres compensations qu'avait octroyées l'AP sous forme de crédit téléphonique au printemps ne sont plus d'actualité, tant un groupe d'arrivantes isolées ne fait pas le poids au regard des fortes mobilisations de mars dernier. J'attends de nouveau l'extradition d'un jour à l'autre, et je sais qu'un troisième isolement sanitaire me sera probablement réservé à mon arrivée en Italie. Je profite des témoignages de solidarité qui me rejoignent aujourd'hui après tant de silence. Malgré les publications sur le thème, qui sont précieuses, on considère encore trop souvent la cavale comme une aventure romantique, et on pense souvent aux compagnons et compagnonnes concernés comme libres. Au cours de cette année et demie, je n'ai jamais manqué de solidarité et d'un soutien chaleureux. Je n'ai manqué de rien, mais on n'est pas libre quand on est privé de sa vie. J'aurais voulu être dans la rue avec mes compagnons et compagnonnes lors des manifestations en réaction à l'expulsion de l'asilo. J'ai accompagné par la pensée la grève de la faim de Sylvia, Anna et Natacha. J'ai pensé tous les jours aux compagnons et compagnonnes arrêtés par vagues successives. J'aurais voulu être aux côtés de ma famille quand elle a traversé des moments difficiles et avoir de leurs nouvelles quand nous étions toutes, tous confinés. Aujourd'hui, je me tiens prête et déterminée à affronter les prochains mois, mais mes pensées vont à celles et ceux qui sont encore sur les routes, souvent loin des personnes qui leur sont chères. J'espère que leur route sera aussi longue qu'ils et elles le souhaitent et que les rencontres qu'ils et elles font leur apportent la chaleur qu'ils méritent et l'énergie pour continuer à lutter, car là. Dans sa lettre aussi, elle parle d'autres mandats d'arrêt européens. Elle parle de Vincenzo Vesi qui vit en France et dont l'État italien a demandé l'extradition. Et elle parle aussi d'autres situations. Et du coup, on va vous lire une autre lettre de Roby qui s'est retrouvé lui aussi arrêté en France et extradé en Italie.
Ouais, il a été extradé le 28 juillet. Cari compagnie, je vous écris pour vous dire que je suis en forme, que le moral est bon et que je continue à avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. Je profite de l'occasion pour remercier du fond du cœur celles et ceux qui m'ont écrit, qui ont pensé à moi, qui m'ont soutenue. Je ne vous cache pas que lorsque je reçois des lettres, ça me met de bonne humeur et ça me donne beaucoup, beaucoup de force. J'ai eu le plaisir également de prendre connaissance avec la campagne de diffamation par le biais de quelques articles de journaux qui m'ont été consacrés. Rien d'étonnant, les médias sont un instrument du pouvoir utilisé pour ternir nos personnalités et pour alimenter les mensonges qui justifient mon incarcération. Je leur envoie donc tout mon mépris, comme aux enquêteurs de cette énième opération répressive. Après presque un mois de placard, lors de la sentence pour mon extradition à laquelle je me suis opposée, j'ai eu l'occasion de lire la version française des accusations à mon encontre et je me suis finalement rendu compte des motifs pour lesquels j'étais incarcérée. En un mot, ils m'accusent d'être anarchiste parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose dans mon dossier, seulement des attaques idéologiques et des lits de solidarité. Que dire de plus ? Vous n'avez pas inventé l'eau chaude, chers accusateurs. La pensée anarchiste existe depuis plusieurs siècles et depuis autant de temps, vous voulez la mettre au pilori. Vous attaquez la solidarité apportée aux prisonniers et prisonnières, mais quand vous rendrez-vous compte que certaines idées, certains idéaux, vous ne pourrez jamais les emprisonner ni même les juger. Une si merveilleuse idée comme celle-là, dont tant de personnes se font les porteurs et porteuses dans le monde, ne pourra jamais être arrêtée. Il n'y a aucun flic, aucune prison, aucun tribunal qui pourra l'empêcher de vivre où que ce soit. Aujourd'hui, vous enfermez nos corps, mais pas nos idées, et la solidarité que je reçois me fait comprendre encore plus que nous ne serons jamais comme vous le voulez, vous, et que 1000 fleurs de solidarité écloreront de nouveau. Un salut chaleureux à toutes et à tous, à toutes les anarchistes emprisonnés partout dans le monde, à qui j'envoie toutes mes forces. Un salut à toutes et à tous les détenus qui luttent contre la prison et qui ne baissent pas la tête devant les injustices subies. Contre le monde qu'ils veulent nous imposer, contre votre répression, contre votre dictature démocratique, vive pour l'anarchie, vive la liberté, avec rage et détermination, Roby.
Ouais, bah on peut aussi dire qu'on passe aussi un salut à tous ceux aussi qui n'ont pas la force et l'énergie de se battre. C'est normal qu'il y ait des gens qui n'aient pas cette énergie là. Mais voilà, et surtout bah on leur passe. On sait qu'ils peuvent difficilement nous entendre et tout ça. Mais en tout cas il y a aussi plein de solidarité qui se passe en France. Vincenzo, il y avait son comité de soutien qui était passé. Je crois que c'était l'émission de rentrée pile poil il y a un an et tout. De plus en plus, actuellement, les liens entre la France et l'Italie se renforcent au niveau sécuritaire et répressif. Et ça fait plusieurs années qu'on le constate. Et voilà, il faut continuer à se battre. Et il ne faut pas oublier non plus quelles sont les lois italiennes voilà, qui viennent clairement du fascisme et de Mussolini. C'est des lois qui sont toujours utilisées. C'est ce qu'expliquait pas mal le comité de soutien à Vincenzo. Voilà, que c'est toujours ces lois-là qui sont utilisées et qui sont particulièrement liberticides et autres. Voilà, et donc voilà, on souhaite plein de force et de courage tant aux proches à l'extérieur que à eux à l'intérieur, même si difficile, enfin, ils nous entendront pas. Voilà, en parlant des proches, bah, on va passer un petit coup de musique et puis on va parler de la situation actuelle dans les tôles et particulièrement l'enfer des parloirs et des gens qui ont dû passer des heures et des heures à leur téléphone. Voilà. Et avant, on va passer une petite musique. On en entend rarement des comme ça, voilà, mais ça fait plaisir à des personnes. On envoie ça.
Le bord de l'autoroute, des oracles sur la plage en plein mois d'août, des milliers d'ados en crise identitaire, en perte de confiance sans aucun repère, fugueuse de 13 ans en quête de sensations, éducateur pour répondre à tes questions, des centres de formation pour les DJs, musique techno et drogue pour t'évader, une culture en marche pour te démarquer, quelques grammes d'héros pour te réchauffer. Sur la société, un regard neuf sur la sexualité. Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui? Locaux municipaux pour concerts gratuits, ateliers bio animés par des hippies, des anciens toxicos animés des bars, des maisons titoles font du bénévolat, des cours de judo gratuits dans ton quartier, dans ton Walkman, le dernier labillier. Pour les jeunes, il y a des lieux associatifs, il y a des lieux associatifs pour les jeunes, il y a des lieux associatifs, il y a des lieux associatifs pour les jeunes, il y a des lieux associatifs, il y a des lieux associatifs pour les jeunes, un accueil pour ceux dont personne ne veut plus, un abri pour ceux qui galèrent dans la rue, un regard neuf sur la société. Sur la sexualité. Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui? Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux.
Bonsoir, donc vous êtes de retour sur l'envolée, voilà, fréquence Paris pluriel 106.3. Donc je rappelle, pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Et pour nous appeler, en
déjà,
direct,
on peut vous
au
dire
040
de...
40 05 06 10.
Déjà, on peut vous dire de remonter le son, parce que j'imagine que vous l'avez baissé.
C'est à cause de moi, c'est de ma faute. C'est de ma faute, je m'excuse. Non, je m'excuse pas, il serait bon ce son. J'assume complètement, je...
Quoi,
c'est Cobra.
Vas-y, pourquoi
ça, en fait, c'est moi qui choisis. C'est le titre, le groupe, c'est Cobra, et le titre, c'est Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Et c'est un son qui me fait délirer, qui m'amuse, et qui, même le clip, il est génial si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube ou quoi. Enfin, pour les plus jeunes, c'est plus compliqué, enfin, sauf ceux qui sont branchés. C'est Cobra, voilà, il y a un bête de clip, voilà, c'est marrant. Et voilà, ça fait délirer, et puis ça fait plaisir de partager avec vous ce soir.
Et nous, on est un peu un lieu associatif pour les jeunes, tu crois?
Bah ouais, carrément, mais carrément, c'est comme un lieu associatif et on peut apprendre plein de choses sur la culture, sur les prisons, comment s'évader. Non, je plaisante.
On aimerait
s'évader par la pensée.
On aimerait bien avoir des solutions pour ça à chaque fois. Mais c'est pour ça qu'il y a Stelico qui commence le générique. Donc ouais, pour nous appeler, c'est le 01 40 05 06 10.
Et sinon, pour nous appeler tout le temps, c'est le 07 52 40 22 48.
Et puis il y a tous les réseaux sociaux et autres où il ne faut pas hésiter à nous écrire. Et on rappelle l'adresse qui a changé, mais ça fait maintenant bientôt un an qu'elle a changé, mais on continue à recevoir du courrier là-bas, sachant que c'est bloqué. Mais donc l'adresse maintenant, c'est l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019, Paris. On va parler c'est quoi cette putain de situation? Est-ce qu'on disait en début d'émission, en disant qu'en fait... il n'y a rien qu'à changer. On avait fait des émissions cet été, juste avant la fin juin, et on disait qu'on avait peur, c'est que les parloirs, ça soit toujours la même chose, et que voilà, et ça continue à être un enfer. Toi, tu les as subis un peu, les parloirs, après
ouais.
D'ailleurs,
petite remarque, ça fait super bizarre d'être là devant vous. D'être ici, là, alors que j'écoutais votre émission derrière les barreaux. J'étais là en train de me dire, mais quand je vais sortir, je vais jamais sortir. Là, de me retrouver ici, comme ça, à l'air libre. Enfin, non, c'est marrant, parce qu'il y a des barreaux à vos fenêtres.
Ouais,
c'est un peu chelou, quand même. C'est un peu, on se gêne. Mais non, ça fait super plaisir d'être là, derrière, en fait, je suis derrière le rideau, quoi. Derrière le... C'est les backstage de l'émission, et puis ça me fait super plaisir d'être invité. Franchement, je voulais vous remercier. En dehors de ça.
Bah, t'inquiète, c'est normal.
Et ouais, bon, pour parler des parloirs, bah ouais, quand j'étais là-bas, il y avait le Covid, et là je suis sorti là, en juillet. Et moi, on nous avait dit que c'est, les parloirs allaient redevenir normal, et qu'ils allaient enlever les plexis. Et puis finalement, là je viens d'apprendre que non, en fait, il y a toujours des plexis, ou je sais pas. Ouais, c'est assez fou quand même, parce que de ne pas pouvoir prendre dans les bras ses proches, et pas pouvoir faire des câlins, et pas pouvoir toucher, c'est dur, c'est très dur quand on sait que là-bas, voilà, c'est. Ouais, le contact physique, juste un câlin, juste prendre dans les bras ça, ses proches, ouais, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment du bien au moral et tout ça, et ne pas pouvoir le faire, ça doit être très dur, très dur.
Ouais, c'est absolument n'importe quoi. Et
ouais, parce que moi, un des trucs que j'ai vu, c'est qu'effectivement, enfin moi, ce qu'on m'a dit quand j'y étais, c'est non seulement il y a le plexi, mais c'est en plus les prisonniers, on leur dit avant, et je crois même ils ont un truc à signer, disant en fait t'as pas le droit de toucher la personne, et si t'es grillé, bah tu risques la mise en quarantaine, la fin du parloir. En fait, t'as quand même un truc de fou qui est, enfin que de toute façon c'est assez anxiogène. En plus, déjà que c'est très désagréable.
En plus, il y a le masque.
Ouais.
En plus, ils te forcent, s'ils passent, ils voient que tu as le masque, mais juste tu dois enlever un petit peu juste pour respirer ou quoi, bah ils te disent tout de suite vraiment remets-le sur le nez, ou c'est très très dur. Ouais, il faut. Tu peux juste prendre la main, parce qu'en fait, les plexis, il y a un peu d'espace en dessous. Tu peux juste prendre la main, tu peux faire une petite caresse comme ça, vite fait, au passage. Mais sinon, ouais, tu peux pas prendre dans les bras, tu peux rien faire, en fait.
Puis ça, si tu te fais griller...
C'est quarantaine. Il y a des gens qui ont pris des quarantaines. Hein. Il y a des gens qui ont pris du... pas du mitard, je pense pas, non. Mais non, ceux qui ont pris du mitard, ceux qui essayaient de faire passer des choses. Mais juste pour toucher, ouais, tu peux ne pas voir pendant tes proches pendant plusieurs jours, quoi, pendant plusieurs semaines.
Ouais, puis après, ouais, c'est ça, t'as le parloir qui saute. Donc t'as d'une part le ça saute, enfin ton parloir il prend fin direct et toi tu pars à l'isolement, donc en quarantaine, mais c'est l'isolement. Enfin, c'est une mesure disciplinaire de ouf, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs on comprend très bien les prisonniers qui se font pas tester, parce que c'est tout à fait légitime. La seule solution, la seule mesure sanitaire que la prison elle met, c'est une mesure répressive. Ça n'a absolument aucun sens. Voilà. Alors que ce qu'on répète et ce qu'on a répété, que ça fait 6 mois qu'on le répète et on continue à le répéter, c'est qu'il faut libérer les gens. Voilà. Et
ce qui est bien à France, qu'ils ont libéré. Hein. Alors, les derniers mois où j'étais là-bas, ça s'est vraiment vidé. En fait, tu sens la différence, c'est quand il n'y a plus de hurlements dans la cour. Quand il y a moins de cris, moins de yo-yo, moins d'activité, en fait, ben là, tu dis, ah ouais, c'est bizarre.
Après, il reste encore des gens dedans, du coup.
Oui, bien sûr, il reste encore.
Ouais, parce que c'est ça.
Non, mais Fresnes, il faut la bombarder. Moi, je dis, il faut la bombarder.
faut
ouais, c'est une bombe atomique.
Fresnes, ils sont passés de 213%, je crois, à 170% de surpopulation. Enfin, non, donc,
c'est voilà. Fou. Moi, quand j'étais arrivé, ça n'avait rien à voir. Tu dormais pas, déjà, la nuit, tu dormais pas. Jusqu'à 3h du mat, 3h du mat, les mecs dehors, en train de faire du bruit, de la musique à fond, en train de crier, en train de gueuler. Et là, cet été, c'était vraiment calme.
Et tu penses que le fait que ça soit Dupont-Moretti, ça a pu jouer un truc, ça ? Parce qu'on en parlera un peu
COVID,
plus longtemps.
C'est le Covid. Le Covid, il a vidé. Avant que Dupont-Moretti soit nommé, le Covid, il avait déjà commencé à vider la prison. Il avait déjà commencé à vider. Après, Dupont-Moretti, je pense que c'est. Ça va dans le sens, en fait. Ça va dans le sens des prisonniers.
Ça ouais.
Dans le sens de. Parce que les prisonniers, c'était super heureux, en fait, que Dupont-Moretti soit nommé. D'ailleurs, tout le monde a vu les images hein, de Dupont-Moretti qui est venu à Fresnes. D'ailleurs, moi, ça nous a choqués. Hein. Moi, le premier, j'étais vraiment choqué. Le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il est venu à Fresnes. Moi, je trouve ça vraiment ouf qu'il soit venu dans la prison, une des prisons les plus insalubres. Bon, je sais pas, j'ai pas vu les autres prisons pour parler. Mais à ce qui paraît, ouais, Fresnes, c'est vraiment, c'est grave, quoi. L'état de Fresnes, c'est très grave.
En vrai, on en reparlera la semaine pro. On a prévu et tout ça, mais voilà. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment une énorme carotte qui a été mise bien violente en faisant croire qu'ils allaient faire quelque chose. Et en fait, que dalle, il y a rien qui change, quoi. Mais voilà. Mais donc, c'est vraiment une catastrophe. Et au-delà de ça, en plus, il y a tout un truc où c'est le merdier pour réussir à avoir un parloir.
Ouais, parce qu'en gros, les bornes, t'as plus le droit d'utiliser les bornes parce que ça serait pas Covid. Friendly, enfin du coup, enfin il faut donc du coup t'es obligé de prendre.
Ouais, parce que alors par contre à McDo t'es pas interdit d'utiliser.
Non, il y a plein de bandes qui marchent dans les supermarchés, mais
tu
là.
Tu acheter ton ticket de métro à
la bande qui marchait déjà pas très bien, elle marche pas.
C'est beaucoup plus important.
Ouais, et du coup tu dois le faire au téléphone et au téléphone en gros tu dois appeler en boucle et ça répond pas jusqu'à un moment ça décroche et là. Et ça peut prendre entre 5 et 30 minutes, en fait, suivant les moments, voire en fait, il y a des gens qui galèrent des jours entiers, mais ça, on va y revenir sur certaines tôles où ça marche vraiment pas. Et après, du coup, tu peux prendre ton parloir que comme ça, quoi. Et ça veut dire. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même, ça te prend du temps déjà au téléphone, qu'en plus, tu peux jamais en prendre à l'avance. Enfin, une fois que tu y es, tu dois de nouveau rappeler, une fois que t'es venu au parloir, quoi, tu dois de nouveau rappeler derrière pour en reprendre un.
Puis il y a ce truc aussi que les horaires d'appeler des parloirs sont en plus de plus en plus réduits. Enfin là, à Villepinte, c'était 2 demi-journées par semaine. À Caen, c'était la même chose. Enfin voilà. Et en fait, bah, les gens, ils bossent, tout simplement. Et en fait, tu peux pas. Alors, si tu as de la chance, en fait, tu appelles en continu pendant 5 minutes, puis au bout de 5 minutes, ça répond. Mais des fois, ça prend une demi-heure. C'est impossible de se prendre une pause d'une demi-heure quand tu es au taf, en fait.
Et puis des fois, ça prend une demi-journée.
Ouais.
Donc, ouais, et il y a seulement des tôles, c'est une demi-journée qu'il faut bloquer.
Donc c'est complètement nimpe. Et là, par exemple, ça a été le cas à Villepinte. Là, ça fait une semaine que leur système informatique il a pété. Et donc il n'y a plus personne qui a accès à rien. Enfin voilà, même les SPIP et tout ça, enfin rien du tout. Mais par contre, Jebsa qui prend les rendez-vous parloir, ben ils arrêtent de répondre. Et donc là, t'as toutes les familles et tout. Enfin voilà, des poteaux là qui ont appelé pendant une semaine et ça répondait jamais. Et voilà. Et en fait, vu que tu as toujours l'habitude que ça répond pas, tu te dis, bah voilà, c'est normal, c'est juste que c'est encore saturé. Et voilà. Et ils disent rien. Donc voilà.
Donc, ouais, ce qu'on voulait dire, c'est que du coup, quand même, avec toutes ces conditions dégueulasses de parloir, il y a eu pas mal de mouvements pendant l'été, là, pendant les 2 mois où on n'était pas là, où, contre, enfin, notamment des mouvements un peu individuels tout le temps, mais des mouvements collectifs qui ont vraiment contre ces mesures-là. Et pour.
Et ça, juste avant d'en parler, il faut juste rappeler qu'il y a eu. Bon, bah, nous, on n'est pas non plus à soutenir de ouf les pétitions et tout ça, et on pense que leur portée, ça reste une portée assez limitée politiquement et tout.
Mais voilà, c'est quand même des initiatives qui ont été portées par des proches et tout ça. Et donc, on voulait signaler deux pétitions qui ont été faites par des proches. L'une qui demande le retrait des plexiglas et que vous pouvez trouver sur change.org. Et une seconde qui est une lettre ouverte au président de la République et puis voilà, qui est sur mes opinions et qui demande qu'il y ait un retrait des conditions de parloir actuelles. Voilà, il y avait eu les projets d'un rassemblement devant Vendôme, devant le ministère de la Justice, mais ça n'a pas été fait. Et voilà. Mais donc oui, il y a eu plein de mouvements.
Par exemple, à Metz, le 2 août, il y a eu une vingtaine de prisonniers qui ont refusé de réintégrer après la promenade, pour demander la fin là, des mesures sanitaires au parloir, et il y a eu une répression assez vénère avec 6 personnes derrière qui ont pris du mitard.
Il y a eu à Rouen le 20 août 21 prisonniers pareil qu'on refusait de remonter de promenade. Voilà, ainsi que le 13 août à Aix, un refus de remonter de promenade.
Et ça, on va en parler après, plus tard, mais dans les centres de rétention, au même moment, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a les conditions de parloir qui restent, qui même parfois sont. Les parloirs sont fermés dès qu'il y a des suspicions de Covid et compagnie, et du coup, plein de mouvements qui vont avoir lieu pour demander au moins le rétablissement des parloirs à la normale, c'est-à-dire comme c'était avant le Covid.
Et il y a eu aussi un mouvement à Charleville-Mézières. Voilà. Mais donc ces mouvements collectifs, ils ont eu lieu dans tous les lieux d'enfermement, sauf dans les hôpitaux psy, on n'en a pas entendu parler, mais sinon, en tout cas, dans les CRA et dans les prisons, il y a eu vraiment des importants mouvements. Et il y a aussi eu des mouvements individuels, des personnes qui sont montées sur les toits. Il y a un type qui a monté sur les toits pour demander son transfert en Loire-Atlantique, et puis une prise de parole qui a eu lieu à je sais plus où, avec une prise d'otage dans une prison en France durant cet été. Ça c'est ce qu'on fait subir aux prisonniers. Et pendant ce temps-là, eux, les matons, eux, et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est eux les personnes qui rentrent et qui sortent tous les jours de prison, donc c'est eux qui sont potentiellement dangereux par rapport au virus. Et alors, eux, les gestes barrières, ça n'existe pas. C'est un truc qu'ils ne comprennent pas. Et donc là, par exemple, la direction de la santé a eu l'extrême intelligence pour satisfaire les syndicats de prisonniers, de leur donner le droit aux matons de la santé d'aller faire un petit tournoi de boxe avec leur poteau keuf, d'un autre syndicat de keuf, dans le gymnase de la prison de la santé le 1er septembre. Donc,
c'est intéressant de faire des combats de boxe entre détenus et policiers ou matons.
On se demande qui
aimerait bien. Je pense qu'il y a peut-être des matons aussi qui se défouleraient, qui seraient vraiment contents de mettre une bonne patate à un détenu.
Dans les règles de l'art, comme toujours.
C'est d'ailleurs dans le film Luc, la main froide. Je sais pas, juste une petite anecdote encore, je me permets, excuse-moi.
Vas-y.
Il y a un film qui s'appelle Luc, la main froide, que j'ai fait découvrir à mon co-détenu et que j'adore, en fait. Je sais pas si les gens connaissent, c'est avec Paul Newman. Et c'est en fait une prison aux États-Unis, un peu dans les années 50 ou 40, je sais pas exactement quelle période. Mais en fait, ils autorisent tous les samedis, ils autorisent des combats de boxe. Ils donnent des gants de boxe aux gens et dans les règles de l'art, ils leur permettent de se défouler, de se battre, de se mettre sur la gueule. Et voilà, et après, celui qui gagne, il gagne. Puis voilà, point barre, ça s'arrête là, fin de l'embrouille. Et ça, je trouve ça intéressant, en fait.
Et les matons aussi
Non, pas les matons.
Ils osent pas trop.
Juste entre les tenues, ouais.
Mais bon. C'est un moyen de régler certaines...
C'est un moyen de régler des conflits et de faire sortir une espèce de rage et de frustration, une énergie, en fait. Parce qu'en fait, on accumule beaucoup d'énergie négative quand on est derrière les barreaux. Que ce soit les matons ou les détenus. Hein. On accumule.
Ouais, parce que là, le sport, quand ça a repris,
c'était
aussi un peu nimp, quoi. Puisque avec les cours de promenade à Fresnes...
En fait, ils nous interdisaient les ballons de foot. Moi, j'ai pas compris. Franchement, c'était un peu aberrant. Parce qu'en fait, même au foot, tu peux jouer avec 3 mètres d'écart. Tu fais juste des passes,
tu fais un taureau ou un truc comme ça. Et puis,
tu peux jouer avec une distance réglementaire, tu vois. Je sais pas pourquoi ils ont interdit les ballons.
Pour faire chier. Hein. Tu sais, c'est, là, c'est la même chose pour les parloirs, en fait. Ça n'a aucun sens. Donc, ouais, parce que là, quand même, pour finir, donc, ces matons et ces keufs, là, voilà, ils sont allés faire leur petit combat de boxe ensemble et tout ça. Donc, vous imaginez qu'il n'y a pas eu de plexiglas entre eux pour pouvoir faire leur combat de boxe. Voilà. Et par contre, après, derrière, quand une simple caresse ou un serrage de main, même avec du gel juste derrière ou quoi que ce soit, là, tu te prends 14 jours d'isolement, ton parloir qui saute, voilà, et les mecs, ils étaient hyper fiers sur leur site internet, ils disaient c'est super bien, voilà une démarche qu'il faut continuer à faire, voilà, et c'est hallucinant, enfin ce truc de, ils continuent à interdire les gens de voir leurs proches et leurs familles dans des conditions à peu près tolérables, et en même temps, eux qui sont les gens les plus à risque en vrai, enfin voilà, parce que c'est eux qui rentrent et qui sortent et tout ça, ils ne font absolument rien. Voilà, donc c'est un truc de ouf, et en plus ils s'en vantent, enfin c'est ça qui est encore plus incroyable. Voilà.
Après,
et
moi-même, pour avoir constaté de visu en coursive à Fresnes, pour avoir pu observer pendant presque une heure les descentes aux promenades, il y a même pas un tiers des matons qui ont des masques, qui ont des gants. Les palpations avant, enfin pour les sorties en promenade, bien sûr, elles sont sans masque et sans gants. Les prisonniers n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gel. Et alors que à l'entrée des coursives, tout à l'entrée de la prison, il y a marqué à partir de maintenant, toute personne doit avoir un masque. Donc on est quand même dans une belle hypocrisie. Et ouais, c'est un vrai foutage de gueule, quoi. Les prisonniers.
Ils pas fouillé, hein. Quand ils sont en promenade, ils avaient arrêté les fouilles.
Ouais, non, c'est des petites, pour certains, des petites palpations, ouais, vite fait, quand tu sonnes un peu, voilà, quand tu passes le truc là. Mais,
et au retour,
mais c'est un vrai foutage de gueule.
Et au retour, parce qu'au retour, je pense qu'il devait être un peu plus chiant, quoi.
Au retour, j'ai pas pu assister, mais en tout cas, voilà, t'as quand même moins d'un tiers, mais vraiment moins d'un tiers des matons qui ont des masques et des gants. Alors que ça devrait être systématique.
Et même s'ils ont des masques, ils les gardent toute la journée. Je pense pas qu'ils les changent tous les 3 à 4 heures.
C'est clair et net. Donc c'est vrai que c'est quand même un foutage de gueule. Un vrai manque de respect.
Bah, ouais,
et à côté, que... ouais, ce que tu disais, c'est quand même une vraie douleur d'empêcher les gens d'avoir un contact physique. C'est pas pour rien qu'il y avait quand même eu plein de luttes contre les parloirs hygiophones à une époque. C'est qu'en vrai, c'est quand même une autre torture supplémentaire que peut t'infliger la prison d'empêcher le contact physique. C'est vraiment un truc... Enfin, c'est pas juste un manque de respect, c'est quand même clairement une souffrance infligée, quoi, aux gens à l'intérieur et à l'extérieur aussi, d'ailleurs.
Bah, même pour les proches qui sont dehors, c'est compliqué aussi.
Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que à l'extérieur, ça, il y a eu aussi un certain nombre de réactions. Et il y a eu un certain nombre de voitures qui ont été attaquées sur des domaines pénitentiaires. voilà, il y a particulièrement à Borgo, où là, il n'y a pas de question qui se pose. Après, qu'il y ait une petite fête au champagne dans une cellule. Donc déjà, les gars, gros big up pour ça. Voilà, ils ont décidé de faire plein de fouilles collectives et de toute la détention. Et là, il y a des voitures avec les noms des matons qui demandent ces fouilles qui ont été taguées sur la tôle, et ces bagnoles qui ont été brûlées. De la même manière, à Fresnes, il y a un cocktail Molotov qui a été lancé sur la voiture d'un fonctionnaire qui était sur le domaine.
Après, à Lille, c'est que d'un.
Ouais, il y a eu à Sequedin aussi.
Là, oui, vraiment, ça a été, je pense, le plus gros truc, où ils ont carrément enfoncé la grille du parking à la voiture Bélier. Ils ont balancé 7 cocktails sur les voitures autour. Et du coup, là, c'était vraiment, je pense, l'attaque la plus vénère.
Ils font ça pour des bijouteries, ils ont fait ça pour après.
Ouais. de cet été.
Et il y a eu aussi à Aurillac, qui a eu...
Voilà, plus à l'ancienne, un mec qui a défoncé le toit d'une voiture en sautant dessus d'un maton, Ça c'était plus street, mais ça marche aussi.
Donc, mais comme ça leur rappelle aussi que ce qu'ils font à l'intérieur, ça reste pas non plus toujours à l'intérieur, et voilà.
Ouais, et puis ça fait du bien de voir que vraiment depuis le mois de mars, finalement, il y a des prises de parole et des actions collectives, contrairement à ce qu'ils veulent faire en individualisant toujours... la criminalisation de ceux qui se bougent et qui revendiquent des choses. et que c'est quand même complètement fou ce qui peut se passer depuis le mois de mars, et que c'est avant tout des actions collectives, quoi. Donc il faut les saluer, faut vraiment les encourager, quoi.
Moi, justement, le fait que je sois tombé à Fresnes, en fait, avant d'y tomber, j'ai jamais entendu parler de Fresnes. J'entendais juste de nom, c'est une légende, c'est un endroit un peu... Moi, je l'appelais la quatrième dimension. Enfin, j'étais là-bas, c'était la quatrième dimension. Mmh. C'est vraiment... C'est plus la France, on n'est plus en France. C'est plus... C'est pas Paris, c'est pas la France. C'est l'impression d'être dans un bled du tiers-monde, je sais pas.
Quand c'est...
paumé, abandonné, il n'y a pas de sous, il n'y a rien.
Ouais.
Bah après je dis ça mais c'est vrai que les prisons du tiers-monde, pour le coup, les prisons dans les bleds en Asie ou je sais pas où, en Afrique, c'est dix fois pire, mais quand même c'est compliqué quand même en France, là, c'est...
mais ça bouge, mais ça, il faut le souligner, c'est vraiment beau, et on espère que ça va continuer.
C'est bien déjà le fait que ce soit vidé, que déjà quand j'étais là-bas c'était 1-2 maximum par cellule. Déjà, ça, c'est une bonne chose.
Parce ouais, c'est sûr.
3, c'est vraiment invivable. 3 par cellule, c'est invivable.
Bien sûr.
Bah après, c'était tout ce truc, mais c'est en train d'un peu remonter. Et ça risque de continuer à remonter et tout. Donc voilà. Et de toute façon, on va en parler un peu la semaine pro, tout ça et tout. Voilà. Mais voilà. Bon. En tout cas, le virus, il continue à circuler, voilà. Et donc, on va pas faire le point sur toutes les tôles et tout ça, voilà, parce qu'en fait, les prisonniers à l'intérieur, vous le savez, parce que vous êtes confinés, voilà. Mais je pense qu'on peut particulièrement parler de ce qui s'est passé à Nancy cet été, où il y a un prisonnier qui a été testé positif, et derrière, il y a 120 prisonniers qui ont été foutus à l'isolement, et voilà. Et c'est toujours ces mêmes mesures répressives, alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire sortir les putains, faire sortir les prisonniers, et faut arrêter de chercher une autre politique que celle-là, et faut arrêter avec ce truc, on ne cesse de le répéter, voilà. Et en même temps, les matons touchent leurs primes qui vont jusqu'à 1 000 euros pour avoir bossé pendant le Covid et avoir fait leur taf, tout en enfermant encore plus fort des prisonniers, voilà. Et ça, on peut pas l'accepter. Plein de force à l'intérieur pour ceux qui sont à l'isolement pour le Covid, mais aussi pour d'autres choses, voilà. Et on va parler des CRAS, parce que pareil, dans les CRAS, ça a été la même galère, et aussi plein de batailles par les gens à l'intérieur et des mouvements collectifs et tout ça. À tout de suite, on passe un petit son. Vas-y.
Ouais, je voulais faire un peu de pub pour mon blog quand même.
Bah vas-y,
prison,
bien sûr.
Bref de prison, le blog qui parle de la prison, 3 cases, 3 strips, une petite blague ou une petite remarque, une petite phrase philosophique. Et voilà, vous le trouvez sur internet, bref de prison. D'ailleurs, belle histoire, je vais être édité. J'ai signé un contrat avec une maison d'édition.
Ah
voilà, une belle nouvelle. C'est une bonne nouvelle quand
ça,
même.
C'est un truc
fou quand même. Bah, c'est la prison qui m'a permis de faire mon livre et de pouvoir faire un truc, de pouvoir signer un contrat avec une maison d'édition. Donc, merci à Fresnes. Merci à Fresnes. Merci à la pénitentiaire.
Mais de toute façon, en vrai, on prendra plus le temps de parler de tout ça et tout, et puis on fera ça. Mais c'est vrai qu'on avait oublié de faire ça, et t'as bien fait. Donc brefdeprison.noblog.
C'est sur Tumblr.
Tumblr, ouais, brefdeprison.tumblr.
Sur Facebook, sur Instagram.
Voilà, il y a partout. C'est voilà. De toute façon, vous retrouvez facilement. On a pas mal fait circuler le truc. Vas-y, on met un petit son, et puis à tout de suite.
Rien de bonnard, je continue ma vie de zonard. Appelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard. Je m'en bats, j'ai pris les défauts d'un gars d'en bas. Ça s'est fait tôt à l'époque où bambin on vagabondait. Moi et ma bande, tout plein de plans foireux. Paré toute la soirée, et toujours dans les coups fourrés. On courait après les ronds et les remparts se faisaient du mouron. C'est malheureux, le temps qu'on perdait à galérer. À faler sur les murs, à siffler les rats. Ou tirer sur le deux-feuilles que nous concoctait l'Europe. Nous, on s'imaginait mal se contenter des miettes. Genre caissier chez Domac. Pour à peine 4000 balles nettes. Après, pour l'argent, on était pire que des sans-sus. Mais à défaut, on s'en passait, on était bien avec ou sans sous. De toute façon, on s'en foutait, fallait s'en douter. Génération qu'avait pas de goûter. On croyait plus en aucune de leurs institutions. Sortie de l'école, dans nos têtes, c'était anarchie ou révolution. Chacun sa route, son but, ses résolutions. Mais surtout pas leur solution, nous on rêvait d'évolution. je continue ma vie de zonard. Appelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard. Je m'en bats, j'ai pris les défauts d'un gars d'en bas. Ça s'est fait tôt à l'époque où bambin on vagabondait. Je continue ma vie de zonard, appelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard. Je m'en bats, j'ai pris les défauts d'un gars d'en bas. Ça s'est fait tôt à l'époque où bambin on vagabondait. Moi et ma deux bancs, comme d'hab, à faire des débats dont on n'enjoint jamais les deux bouts. Des fois c'est marrant, ouais, mais d'autres c'est grave. Comment les mauvaises langues peuvent faire des gueublats de mauvais goût. Je sais qu'il fallait s'attendre à des hauts et des bas, même si c'était bien beau au début. Mais c'était dur déjà de rester debout. Comment ne pas se laisser emporter par la vague. Moi la rue elle m'a eu sans me drague. J'étais dos quand elle me passait la bague. Et j'étais qui pour faire changer les choses. Ouais, ils nous niquaient sous contrat même. Mais je suis avocat moi pour changer les clauses. Personne ne prenait notre défense. Qu'est-ce que t'aurais voulu que je fasse à part bosser des textes, défoncer tête basse, me trouver un bise en attendant mon buzz. Cousse, on était tous clean à la base, demande à Bouze. Mais bon, c'est dur de s'en sortir. Tu m'étonnes, surtout sans faire d'études. Donc des thunes, on en voulait des tonnes. Je continue ma vie de zonard, appelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard. Je m'en bats, j'ai pris les défauts d'un gars d'en bas. Ça s'est fait tôt à l'époque où bambin on vagabondait. Je continue ma vie de zonard, appelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard. Je m'en bats, j'ai pris les défauts d'un gars d'en bas. Ça s'est fait tôt à l'époque où bambin on vagabondait. Dans ma deux bancs, y'a de tout, des Biggie et des Custy comme Krusty. Le sosie de Biddy, des intello et des abrutis. Casse-couille pour des broutis, on s'embrouillerait pour un bounty. Mon quartier, une grenade sans goupille. Une fausse manip et sa pète. Si le porc va vivre, nous faut sa tête. Sinon c'est pas qui, justice n'est pas faite. Le juge qui la quitte, a le nez dans la coque. Diront mes potos, pensant à ce parti trop tôt. Paraît que pour nous c'est trop tard, qu'on sera encore là dans 30 ans. 60 balles au compteur, fumer nos spliffs au ton cas. Mais peut-être bien qu'au contraire, il nous faudra pas grand temps pour voir nos salles de concert pleines et faire un ton cas.
Salut, vous êtes bien de retour sur l'envolée, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour la dernière demi-heure de l'émission. Donc pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, FPP-l'envolée 75019 Paris. Pour nous appeler là en direct, c'est au 01 40 05 06 10. Et sinon pour nous appeler le reste du temps, c'est au 07 52 40 22 48. Et donc là, on va parler ouais, des centres de rétention et des prisons pour sans-papiers dans la demi-heure qui reste. Oui, c'est passé pas mal de trucs ces deux derniers mois. Donc juste pour faire un petit rappel, on a beaucoup parlé pendant le confinement, mais donc pendant le confinement, les centres de rétention sont restés ouverts, même s'il n'y avait plus d'expulsion. Et on a continué, notamment au début du confinement, il enfermait pas mal de gens qui étaient donc entre guillemets libérés de prison et qui se retrouvaient enfermés au CRA sans possibilité d'expulsion derrière. Et malgré tout, quand même, pendant le confinement, il y a eu pas mal de décisions des JLD de libérer des gens. Donc les CRA ont été pas mal vidés. Il y en a certains qui ont fermé. Et à partir de la fin du confinement, les CRA se sont de nouveau remplis. Il y a eu un arrêt des libérations sous prétexte que les frontières allaient bientôt rouvrir. Et donc depuis juin, on a des CRA de plus en plus pleins. Mais sans expulsion. Enfin, je dis sans expulsion, mais bon, juste, faut rappeler, pendant tout le confinement, il y a toujours eu des expulsions vers la Roumanie, vers... Il y a même un avion qui est parti vers le Brésil, enfin une expulsion vers le Brésil. Enfin, il y a des expulsions qui ont continué, notamment il y a des vols charter vers d'autres pays d'Europe. Mais les trois quarts des pays de destination ont les frontières fermées. Voilà. Mais en attendant, on continue d'enfermer les gens. Et en fait, comme ce qu'on vient de raconter, ce qui s'est passé en prison, c'est qu'à partir de juillet, août, il y a commencé à y avoir plein de, en fait, de cas de Covid avérés dans les... dans plusieurs centres de rétention et pas mal de mouvements collectifs du coup pour demander la libération en fait de la fermeture des centres de rétention et ou en tout cas le rétablissement des parloirs qui étaient à chaque fois arrêtés au moment où il y avait une suspicion de cas de Covid. Et il me semble qu'à la dernière émission en fait c'est exactement ce qui se passait au CRA de Lille. On en avait parlé, il y avait quelqu'un qui avait appelé ou à l'avant-dernière émission où, en fait il y avait des cas de Covid, il y avait quelqu'un, un prisonnier qui avait été transféré du centre de Lille à celui de Calais qui avait été testé COVID, positif là-bas. Et du coup, en fait, tous les gens du CRA de Lille, après, avaient été testés, mais après avoir seulement après avoir bloqué un peu la promenade, avoir fait pas mal de mouvements à l'intérieur, et ils avaient été testés, il y avait eu des cas positifs, et voilà. Ça, c'était il y a deux mois, donc comme tu disais, Serge, on continue à dire la même chose, que vraiment, les choses n'ont pas changé, si ce n'est qu'en fait, depuis début août, il y a quand même vraiment beaucoup de mouvements collectifs qui ont eu lieu dans les centres de rétention. Alors... ça commence, en fait, on nous avait parlé de ça à Vincennes, parce qu'on parlait aussi de la gestion là, des prisonniers avec les histoires de Covid et tout. En fait, comme ce qui s'est passé dans les centres de rétention, c'est à Vincennes, donc on testait les gens à l'arrivée. Et, si, et pendant le, il y avait une quatorzaine, il y avait un bâtiment, les gens étaient en quatorzaine, puis ils étaient envoyés avec tout le monde dans, des, dans un autre bâtiment. Et donc les gens avaient obtenu le droit d'être en cellule individuelle, vu que le CRA n'était pas plein. Et à partir de début août, ils ont de nouveau été tous rassemblés dans un bâtiment. Donc les gens ont commencé à protester, parce qu'ils étaient de nouveau 3 ou 4 par chambre, et il n'y avait plus de tests qui étaient faits à l'entrée. Et c'est le moment où, je crois, donc à ce moment-là, il y a eu des gens qui ont été des cas confirmés de Covid au CRA de Mesnil-Amelot. Il y a la CIMAD qui s'est retirée en fait en disant en fait il y a des cas de Covid parmi les flics. Encore une fois, c'est eux qui ont fait rentrer le truc au Mesnil-Amelot. Et ils ont commencé à tester les prisonniers. Et tous les prisonniers qui étaient positifs, ils les envoyaient dans un bâtiment de Vincennes. Donc en fait, on avait un bâtiment d'un centre de rétention en Île-de-France. On envoyait tous les prisonniers malades, enfin tous les prisonniers testés positifs au Covid et qu'on mettait dans ce bâtiment. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là, y a, comme on disait, en prison, il y a plein de gens aussi qui ont en fait, qu'on refusait les tests, bah, justement parce que en fait, quand tu te faisais tester positif, bah, tu te retrouvais à l'isolement et avec, de toute façon, tu risquais pas de te faire expulser, mais tu risquais pas non plus de te faire libérer, parce que c'est ça qui s'est passé, c'est que même avec un test positif où du coup, bah, en fait, tu vas jamais te faire expulser, enfin jamais tu vas être pris dans un autre pays avec un test positif, ils faisaient quand même pas sortir les gens. Donc les gens refusaient le test pour pas se retrouver à l'isolement, et il y a des endroits où ils ont mis les gens qui refusaient le test avec les gens testés positifs, genre dans le même bâtiment, genre ah, tu veux pas tester, bah voilà, tu vas être positif. Donc voilà, il s'est passé des trucs comme ça. Et encore plus récemment, il y a des gens qui ont refusé le test au moment du départ, parce qu'il y a des moments où le test est obligatoire pour pouvoir se faire expulser. Et du coup, ça a été pris comme un refus de se faire expulser. Donc il y a des gens qui ont pris de la prison là récemment à Rouen et à Rennes, 3 mois et 2 mois, et ferme là cette semaine, pour avoir refusé un test. Enfin du coup, enfin, ce serait apparemment ça, ce qu'ils ont refusé le test a priori pour refuser l'expulsion, et derrière du coup ils ont fini en taule pour ça. Donc voilà, ça c'était un peu le récap. Et donc maintenant je vais essayer un peu de parler des différents mouvements collectifs qu'il y a eu à la suite de ça. Donc comme je disais, à Vincennes et au Mesnil, au moment où il y a eu ces, bah, du coup, les cas avérés, les tests et tout, il y a eu des gros mouvements. Au Mesnil, il y a eu un blocage de promenade collectif pendant plusieurs jours, et tous les bâtiments qui avaient commencé à se remplir, et c'était plusieurs dizaines par bâtiment, tous les bâtiments se sont coordonnés et ont fait un mouvement qui a duré quelques jours ensemble, avant de se faire donc un peu dispatcher, comme j'expliquais. Et au même moment, il y a un mouvement qui a eu lieu à Rennes, bon, pareil, où les gens ont sorti un communiqué, bah, que vous pouvez retrouver comme d'hab sur abalekra.noblog.org, mais bon, on n'a pas le temps de tout vous rentrer, enfin de rentrer dans les détails pour tout. Et dans la semaine, donc voilà, deuxième semaine d'août, ce qui se passe, c'est qu'il y a des cas de Covid qui sont identifiés dans plein de CRA au même moment, donc au bâtiment des femmes à Toulouse, à Nîmes, à Marseille et à Lyon. Et en fait, dans ces différents centres, il y a pas mal d'anciens prisonniers qui sont arrivés. En fait, là, d'après ce qu'on sait, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sortent de prison, qui sont en centre de rétention en ce moment, comme ça a pu être le cas au début du confinement. Enfin, la proportion, on va dire, d'anciens prisonniers est proche de la moitié, par exemple, à Nîmes ou Marseille. Et donc, c'est des gens qui se connaissaient parfois en prison. Et donc, quand ils ont été dispatchés dans différents centres, ils étaient en lien, dans ces différents centres, ils étaient en lien les uns avec les autres. Et en plus, dans la semaine juste avant, il y a eu des transferts disciplinaires entre les CRA, qui fait qu'en fait, il y avait des contacts entre ces centres-là que j'ai dit, là, les 4, Toulouse, Marseille, Lyon et Nîmes. Et du coup, il y a un mouvement qui a démarré dans les 4 centres en même temps. Donc ça, c'était assez ouf, où les gens étaient en contact, ont sorti... Alors, ils ont sorti un texte, je crois, à Nîmes, en lien avec les différents bâtiments, où les gens arrivaient à communiquer entre les différents bâtiments et se sont mis d'accord sur... Enfin, en tout cas, ont validé le texte, on va dire, collectivement. Et à Toulouse aussi, je crois, là, c'est les meufs. Le mouvement était parti du bâtiment des meufs, et apparemment, c'est elles qui ont pris pas mal cher dans la répression. Mais il y a quand même eu un mouvement qui a lié le bâtiment des meufs et le bâtiment des mecs. Donc là, ce qui était vraiment intéressant à ce moment-là, ce qui était vraiment ouf, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça bougeait vraiment, qu'il y a eu 4 CRA qui, des liens qui préexistaient entre des prisonniers, ont pu se coordonner et se mettre en lutte en moment. Donc ça a pu être il y a eu des grèves de la faim, il y a eu des blocages de promenade, il y a eu des départs d'incendie, je crois, à Lyon. Enfin, il y a eu pas mal de choses différentes qui ont été essayées. Enfin, et voilà, pendant une semaine, ces 4 centres de rétention, ça a pas mal bougé à ce moment-là. Et là, on va vous parler un peu plus en détail de ce qui se passe en ce moment à Marseille, parce que ça fait en fait le mouvement donc, qui a commencé à ce moment-là au centre de Marseille. En fait, il continue jusqu'à maintenant, donc ça fait bien 2-3 semaines. Et donc, en fait, dans les première semaine, les prisonniers ont sorti un communiqué qu'on va vous lire. Et puis après, ça a commencé à pas mal s'organiser à l'extérieur aussi. Et donc ça, on va en parler après.
Ouais, du coup, je vais vous lire le communiqué. Donc la semaine du 17 août, on était plusieurs dizaines de personnes à s'être mises en grève de la faim pendant plusieurs jours, car on a peur pour notre vie à cause de la mauvaise gestion des risques de contamination du Covid-19 ici. Tout le monde s'en fiche de notre situation, la police ne fait rien, Forum Réfugiés, l'association qui est déléguée pour s'occuper des aspects juridiques ici, dans le centre, ne réagit pas à notre grève de la faim, et la population dehors nous oublie. On veut se faire entendre, même si notre grève de la faim est difficile à supporter. Il y en a un qui, dans le CRA, qui est en grève de la faim depuis 30 jours, il a fait plusieurs malaises. Il a été envoyé 2 fois à l'hôpital Nord à cause de sa grève de la faim, mais la 3e fois qu'il a fait un malaise, la police a dit aux pompiers de repartir sans s'occuper de lui. On se remet en grève de la faim dès ce week-end, du 22 au 23 août, à cause de la même situation qui ne change pas. Les frontières sont fermées et pourtant, on nous maintient 60 jours ou plus au centre de rétention. De même temps, les arrestations continuent puisqu'il y a toujours des gens qui arrivent dans le CRA. Des risques de contamination augmentent donc. Il y a au moins 4 cas confirmés de coronavirus au sein de la PAF, qui garde le centre de rétention de Marseille, et pourtant, rien n'est fait pour nous protéger. On ne nous donne pas de masques, les seuls qui en ont ici et qui en ont ici les obtiennent grâce aux visites. Dans la police, ça se met en arrêt maladie pour éviter de venir au CRA. La police aussi, elle a peur. Il y a des tests au coronavirus qui commencent à être faits sur les prisonniers dans le CRA. Nos proches hésitent même à venir nous voir parce qu'on a peur que ce centre soit un gros foyer de coronavirus. De manière générale, nos proches aussi sont épuisés par cette situation. Des parents doivent s'occuper seuls de leurs enfants. Nos proches aussi sont cassés par les procédures juridiques, la séparation et le mal de vivre. Les frais d'avocat coûtent parfois plusieurs milliers d'euros. Les avocats commis d'office ne font rien. L'association qui gère le CRA de Marseille, Forum Réfugiés, ne s'occupe pas des cas qu'elle considère défendables et laisse les autres dans la merde. Par exemple, ceux qui n'ont pas de famille dehors ni de visite en parloir. Ce CRA est dégueulasse, il n'y a que des parloirs qui sont relativement propres. On est une 50aine en ce moment dans le CRA et on ne peut pas respecter les distances de sécurité dedans. On est plusieurs par cellule et trop nombreux au réfectoire. C'est pour ces raisons qu'on refuse de remonter au réfectoire et qu'on a décidé de se mettre en grève de la faim pour dénoncer cette situation dangereuse et injuste.
Ouais, et donc ce que je disais, à partir de ce moment-là, il y a pas mal de... solidarité qui s'est montée à l'extérieur du CRA de Marseille, ce qui a permis aussi de plus faire sortir les infos, et donc ce qui fait qu'on sait que là, ils ont fait une grève de la faim d'une semaine, qu'après il y a eu une petite pause, après ils sont repartis sur une grève de la faim d'une semaine. Entre-temps, il y a eu un parloir sauvage devant le CRA, donc qui est le CRA du Canet à Marseille, puis un rassemblement devant la préf de Marseille où il y avait plus de 100 personnes, je crois. Et demain, il y a de nouveau un rassemblement devant le CRA de Marseille, aussi devant le CRA de Rennes. Enfin, il y a des rassemblements devant différents centres de rétention en France. Donc, vous pouvez regarder en fonction de là où vous êtes, vous renseigner. Mais en tout cas, à Marseille, c'est sûr qu'il y en a un. Et c'est assez intéressant parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu parloir sauvage là-bas. Et à la fois, donc, il y a le nouveau collectif Sans Papier de Marseille qui était présent, mais aussi d'autres collectifs qui luttent contre les frontières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accéder en fait, à l'arrière du CRA, aux fenêtres des gens... aux chambres, et donc en fait on peut vraiment discuter avec les gens, enfin il y a une petite impasse derrière et il y a moyen du coup de faire le parloir sauvage là et vraiment pouvoir échanger avec les gens.
Et il y a aussi un rassemblement au CRA de Cornebarieux à Toulouse demain à 14h. Voilà, mais donc il y en a un peu partout, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà. Bon, c'est toujours la même merde. C'est vraiment ouf cette émission en fait, où on se retrouve à faire exactement la même émission qu'il y a 2 mois. Enfin voilà, je le répète 4 fois, mais en vrai, je trouve que c'est complètement incroyable où les trucs auraient dû changer, auraient dû bouger. Voilà, ça n'a toujours aucun sens. Voilà, enfin ça n'a pas de sens déjà à la base, mais là encore moins d'enfermer des gens en CRA actuellement alors qu'ils ne peuvent pas être expulsés. Voilà, c'est même complètement illégal, même dans leur propre truc de loi, eux, avec leurs propres termes et tout, c'est illégal parce que normalement c'est pour pouvoir t'expulser, et c'est seulement ça la justification entre guillemets légale, c'est le délai d'attente pour qu'on trouve un vol, quoi. Donc c'est quand même complètement
ouais, complètement même dingue. Au-delà de ça, on voit que c'est C'est à la fois de la gestion de population, parce que quand on les balade d'un centre à l'autre ou d'un bâtiment à l'autre en fonction des tests, et qu'en fait même on se permet de mélanger les gens qui refusent les tests avec des gens qui sont testés positifs, qu'il y a plein de moments, bah, comme c'était le cas à Lille en juin, en fait on ne fait pas de tests au moment où les gens arrivent, et donc en fait bah, quand quelqu'un est testé positif plus tard, bah, il se révèle que du coup tout le monde a potentiellement eu, vu qu'il n'y a aucun... Enfin pour le coup, les prisonniers dans les centres de rétention, bah, comme en prison, ils n'ont aucun truc de... Enfin aucun gant, aucun masque, voilà, et ils n'ont pas de cellule individuelle les trois quarts du temps. Et enfin, du coup, c'est vraiment, enfin, il y a vraiment un traitement qui est inhumain. Enfin, je sais pas comment dire, parce que j'aime pas trop ces mots-là, mais en fait, on les traite vraiment comme de la merde, parce que, enfin, on parle tout le temps dehors, attention, faut se protéger, attention, faut se protéger. Mais eux, clairement, on se permet de les balader d'un coin à l'autre et de les enfermer juste, comme tu disais, sans raison. Après, il y a tout ce truc que quand même beaucoup de gens sortent de prison. Il y a beaucoup de gens qui ont été libérés de prison et justement qui là, en ce moment, apparemment, finissent au CRA et ne sont pas autant. Il y avait des libérations. Au 60e jour, même avant le 60e jour, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de libérations et ça s'est vraiment arrêté parce que sous prétexte qu'à tout moment les frontières peuvent ouvrir et que du coup là on va être prêt à expulser. Quoi.
Ouais, ce qui est complètement n'importe quoi. Enfin, on sait complètement que c'est faux. Quoi. Et voilà. Et en même temps, pour parler aussi pas seulement des lieux d'enfermement en France, c'est de plus en plus la galère aux frontières de l'Europe, dans les camps, que ça soit à Lesbos ou autres, enfin qui sont, je sais même pas si on peut parler de camps, mais en tout cas c'est bidonville, enfin c'est trucs où les gens ils commencent à faire leur vie là-bas, enfin voilà. Pareil, il y a absolument aucune mesure sanitaire et tout ça, et ça devient maintenant l'excuse pour laisser crever les gens dans la mer Méditerranée, de dire ben non, on va pas pouvoir accueillir des bateaux parce que c'est possible qu'il y ait des cas de Covid. Voilà, donc on voit bien comment est utilisé soi-disant la maladie et l'état sanitaire pour pouvoir avoir des politiques conservatrices et puis réactionnaires là-dessus. Voilà. Et donc, d'un côté, c'est une excuse pour pouvoir laisser mourir des gens à l'intérieur, enfin dans la Méditerranée, et de l'autre côté, on enferme encore les gens, sans respecter les trucs, quoi. Enfin, donc c'est vraiment complètement aberrant.
Bah ouais, enfin, ce qu'on dit, voilà, c'est que de toute façon, la façon dont on traite la ce virus, ça révèle bien les gens qui comptent, les gens, enfin, les vies qui comptent pas. Tout saute assez. Enfin, il y a des choses qui sont devenues encore plus visibles pour les gens, enfin, pour ceux qui n'étaient pas très clairs. Et du coup, enfin, vu qu'on a un peu de temps, enfin, on n'était pas sûr d'avoir le temps par rapport à combien de textes on pouvait lire, parce que comme on disait, il y a beaucoup de communiqués qui sont sortis des centres de rétention cet été.
D'ailleurs, on peut dire qu'on peut les retrouver sur le blog Abba les Gras, les Cras, parce que j'ai un peu pris pendant le confinement. Alors. donc, Abba les Cras, noblog.com.
Point org.
Oh là là.
Et du coup, ouais, donc, comme je disais, il y a eu un gros mouvement avant qui s'est lancé dans 4 cras en même temps, et notamment à Nîmes, où là, tous les prisonniers vraiment étaient tous les bâtiments étaient en lien, et tout le monde a validé un texte collectif. Et donc c'est pour ça que c'était intéressant et que nous aussi on voulait le lire celui-là, parce que du coup c'est un texte collectif qui a vraiment été a priori approuvé et qui a donc fait écho à ce moment où il y a 4 cras qui sont en lutte, voilà, qui n'ont pas tous pu sortir des textes parce qu'on n'est pas toujours en contact avec des gens, mais voilà, là c'était le cas.
Il faut fermer les centres maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont un passeport en activité, qui ont déjà purgé leur peine et qui restent enfermés entre ces quatre murs parce que les frontières sont fermées. Et cela pourquoi ? Parce que les frontières sont fermées. Donc on va encore y rester plusieurs mois. Les repas sont infects, les lieux sales et infestés de tout genre d'insectes qui nous piquent la nuit. Il y a des gens qui sont en couple, des femmes qui ont des enfants qui vivent en France depuis plusieurs années. Il y en a qui travaillaient et qui avaient un logement, mais hélas, faute de papier, ils se retrouvent ici pour une durée inconnue. Et sous prétexte qu'on n'a pas de papier, on est traité comme des moins que rien. Il y a 6 jours, on a fait une grève de la faim, ils s'en foutent comme l'an 40. Les keufs nous disaient que ça servait à rien et certains ont rigolé. Comme tous les êtres humains, on réclame nos droits ainsi qu'un arrêt de notre privation de liberté. D'après les responsables d'ici, on peut rester 3 mois. Les prisonniers des CRA de Toulouse, Lyon et Marseille ont eux aussi ras-le-bol et ils ont décidé de lutter aussi, certains par le feu ou la grève de la faim. On a l'impression de devenir fou à tourner ainsi toute la journée. Nous n'avons plus d'argent pour acheter du tabac et des cigarettes, ce qui amplifie le stress et la pression. Franchement, en prison, nous étions mieux, on se dépannait en tabac. Ici, pour se faire raser ou se couper les cheveux, on est presque obligé de mendier. Ici, ils nous refusent les téléphones avec photos pour éviter qu'on puisse montrer l'état des lieux et ils osent parler d'égalité. C'est comme l'association qu'il y a ici, Forum Réfugiés. Au lieu de nous encourager, ils nous disent « on a tout fait » au sens où vous ne faites, tout ce que vous faites ne servira à rien. L'autre jour, il y a un policier qui est au petit déjeuner et qui nous a dit « plus vite, sale bico ». Je me suis retournée, mais je n'ai pas pu voir lequel c'était. Il y en a plein qui sont dégoûtés et qui veulent juste repartir. Depuis 5 jours qu'on fait la grève de la faim, on n'a toujours pas vu de médecin ou d'infirmier pour identifier notre état de santé. Nous, prisonniers de Nîmes, nous revendiquons le rétablissement des parloirs. On nous a enfermés sans raison. Nous exigeons notre remise en liberté immédiate, nourriture décente, changement d'équipe de policiers avec des policiers qui ne sont pas racistes, possibilité de cantiner en centre de rétention, la possibilité de laver nous-mêmes nos bâtiments et la promenade, la possibilité de se protéger face au Covid-19 avec du matériel et des soins. À bas les cras.
Ouais, enfin, ça c'est ce qu'on disait, c'est que du coup, plein d'endroits où il y a eu des cas de Covid, les pères noirs ont été annulés, que comme on l'a souvent dit ici, en CRA, contrairement en prison, on ne peut pas cantiner, c'est-à-dire qu'en fait, à l'OFI, ils vendent des clopes, mais en fait, quand ils en ont, et en fait, il faut avoir de l'argent en liquide, et, enfin bref. Du coup, c'est une galère. En fait, beaucoup de choses, et notamment même de la bouffe, passent par les parloirs au quotidien. Et là, du coup, en fait, c'est plein de choses qui ont été coupées. C'est aussi plein de choses qui ont fait que les gens se sont bougés. Parce qu'il y a plein de moments où les parloirs étaient annulés. Ou même, tu arrivais devant le centre de rétention. On disait, ah non, on ne pouvait pas rentrer, les gens ont le Covid. Alors que ce n'était pas vrai. Mais les flics utilisaient vachement cette raison juste pour t'envoyer balader et pour faire genre les parloirs étaient interdits, même quand ils ne l'étaient pas encore. Quoi. Après, sachant que de toute façon, il y a plein d'endroits où ils ont été annulés. Et après, pour parler aussi sur ce qui s'est passé sur les gens là qui sont testés positifs à Vincennes, je disais qu'ils étaient rassemblés dans un bâtiment. Donc, je crois que là, c'est en train de changer encore récemment. Mais donc, dans ce bâtiment, ils n'avaient aucun contact avec les flics. On leur filait les plateaux repas sous la porte. Pareil, tout était filé sous la porte. Il n'y avait plus aucun contact avec l'extérieur. Donc, c'était vraiment mis en quarantaine. Donc, on peut imaginer un peu l'ambiance que ça devait être.
Ouais. Oh, c'est intolérable. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas... Enfin, c'est... Voilà. C'est des gens, ils doivent être dehors. Enfin, t'es testé positif, tu vas dehors, en fait. Enfin, tu vois, tu vas t'isoler. C'est le problème. Après, derrière, parfois, t'as plus de logement, mais en tout cas, t'as toujours, t'as la famille ou des proches et tout ça. Voilà, et tu vas faire ta quarantaine, ou ta quatorzaine, tout ça. Mais c'est incroyable de continuer à enfermer les gens quand ils sont malades. Enfin, il y a un moment, c'est insupportable. Et voilà. Et au-delà de ça, bon, là maintenant, je pense qu'il y a un peu moins de flip aussi sur c'est quoi. Cette maladie et tout ça, voilà, mais bon, il y a quand même des trucs qui ont été vécus là de stress de ouf, voilà, parce que vu qu'on savait pas c'était quoi cette maladie, tu te disais que putain, t'allais peut-être pouvoir te retrouver à crever à cause de ça, et puis tu te retrouvais enfermé dans ta putain de cellule, quoi, enfin, c'est hallucinant. Donc voilà, bon, en tout cas, on va continuer à relayer tout ça, et je pense qu'il y a des gens qui nous appelleront comme ça a été le cas pendant longtemps, ouais. Donc, pendant toutes ces dernières années. Et donc c'était l'émission de rentrée, il y avait déjà tellement de trucs à dire que voilà.
Et voilà, juste pour du coup pour finir sur ça, c'est juste dire que. Bah, ce qu'on disait, c'est qu'en fait, ils attendent qu'une chose, c'est que les frontières rouvrent. Donc, clairement, ils n'ont pas l'intention de relibérer des gens. Ils sont prêts à attendre, à prolonger jusqu'au moment où ça va ouvrir. Tous les CRA en Île-de-France, même les petits CRA de plaisir, enfin, les petits CRA qui sont dans des comicos et de Palaiso, ils ont rouvert. Donc, à peu près, voilà, tous les lieux là, d'enfermement de sans-papiers en France ont rouvert. Et alors que, comme on disait, les trois quarts des frontières... reste fermé, donc en tout cas eux ils sont prêts. Et ouais, dans le dernier truc qui s'est passé là, c'est vraiment ces derniers jours, c'était à Rouen où de nouveau il y a eu un mouvement collectif et quelqu'un derrière qui a pris, je crois que c'est suite à ça, quelqu'un qui a pris ce que je disais 3 mois ferme pour avoir refusé son vol, son expulsion, et qui du coup là est en prison. Et du coup il y a un mouvement qui est parti et ils sont encore là en ce moment. Donc si vous pouvez appeler les cabines, je rappelle les numéros des cabines sont disponibles sur le site là, à bas les CRA, et vous pouvez appeler les gens là de tous les CRA dont on a parlé quasiment, notamment Marseille et Rouen. C'est sûr que les gens en ce moment sont en train de bouger, et si vous voulez témoigner leur soutien, votre soutien, ou discuter avec eux, faut pas hésiter, quoi.
Et il y a plein de manière de le faire, donc lisez bien, c'est super bien écrit sur le site à bas les CRA. de comment le faire et tout ça. Enfin voilà, pas être inquisiteur, pas faire. Enfin parce qu'en fait, ils reçoivent plein de coups de fil de journalistes qui après derrière vont écrire de la merde sur eux. Et donc ils en ont trop l'habitude. Voilà. Et donc y a plein d'explications de voilà comment se comporter, comment appeler quand on veut témoigner de sa solidarité. Enfin voilà des conseils sur comment le faire mieux. Voilà. Mais on avait plein de trucs à dire, mais en fait, il nous reste encore un peu de temps. Donc, déjà, on va vous rappeler ce qu'on avait dit en début d'émission, qu'on se relance, qu'il va y avoir un journal dans pas très très longtemps. Et donc on fait, faut pas hésiter à nous envoyer soit des nouveaux courriers et tout ça pour raconter et qu'on diffusera dans le journal, soit aussi vos changements d'adresse et autres, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas eu le dernier journal. Enfin voilà, on continue à avoir des retours là. Voilà. Donc pour ça, je vous rappelle l'adresse l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75019 Paris. Donc voilà. Sinon, on a des coucous. Il y a K qui fait des coucous à l'infâme, qui lâche rien même au fond du quartier d'isolement sordide. À Jules à Nantes, tiens bon. À Mickaël, à Moissy, je te réponds vite.
Voilà. Nous, on fait un coucou
à Fren.
Ouais, à notre poteau à Fren. Aussi, un grand merci à Chris pour les
CD
qu'on a reçus.
Grave. À Serge aussi, à Fren.
Moi, je voudrais envoyer beaucoup de force à Shell Hill, là, qui vient de retomber à Fren. Et on espère que, à son jugement, ça va pouvoir limiter un peu la casse. En tout cas, beaucoup de force à toi.
Puis y a les gens. Moi, je vais réécrire un peu à toutes les personnes avec qui on avait été en contact pendant le confinement. Là, les vacances ont un peu, on peut couper deux trois trucs et tout. Mais voilà. Plein de force et de courage et de détermination à tout le monde. On finit un peu plus tôt parce qu'il faut qu'on nettoie le studio pour les gens qui suivent derrière. Plein de force à tous les proches qui galèrent pour réussir à avoir des parloirs. Plein de force à tous les enfermés et de France et particulièrement ceux qui sont à l'isolement ou au mitard. Et on se retrouve la semaine prochaine toujours en direct. Force, courage et détermination.
Il n'y a pas d'arrangement.
Et rediffusion mardi matin. Voilà. Et rediffusion aussi sur plein de radios qui nous soutiennent. On vous fera un point la semaine prochaine, mais on va être diffusé à Arras.
Un gros merci à toutes les radios qui nous...
Grave, qui continuent à diffuser, qui font qu'il y a de plus de tôles qui sont touchées. Voilà, c'est l'objectif. Force, courage à tout, et puis à la semaine prochaine. Ciao ciao.
Salut.
Issus des quartiers meurtriers, là où le meurtrier est trop fréquent, la vie du voie et ses conséquences. J'y raconte les tripes du ghetto, ses ambiances louches. Quand sonne le fusil à pompe, tout le monde se couche. Pas un voyou qui fasse long feu, t'es prévenu. À peine tu viens d'ouvrir les yeux que t'es détenu. La mort ou la prison, t'as deux issues. L'histoire se répète et tu crois être le plus vicieux. Tu veux grimper par n'importe quel procédé. T'es donc sujet à de judiciaires procédures. La route te guette, mec, les flics aussi. Déjà vendu une barrette à un vil, si. Entre les traites et les balances, tu te balances comme sur un fil. Ta carrière peut prendre fin sur un coup de fil d'une balance. Un mec qui est mal et passe à table. Ton numéro d'écrou remplace celui de ton portable. Là, tu connais l'envers du décor. La prison et son univers hardcore. Faut que t'assumes même si son atmosphère t'asphyxie. Le juge t'allume et fait béton ton sourcil. Affaibli malgré ton moral d'acier. Leur barreau, tu souhaiterais pouvoir les scier. Maintenant que la parole devient l'encre, tu te rends compte qu'il y a peu de gens pour qui tu comptes. Peu de courriers et encore moins de mandats. Qu'est-ce que tu crois? pas pour survivre,
t'es pas assisté.
Ta mère n'a que ses yeux pour pleurer, le cœur serré tant que son fils est incarcéré. Ébranlé par cette douloureuse conviction qu'elle a échoué, manqué à ton éducation. Et dès que t'es sorti, ça y est, t'es reparti.
Puis t'es reparti, dès que t'es sorti.
Les plus jeunes te prennent pour modèle. Ils comptent sur toi pour que tu leur fasses prendre de l'oseille. Ça t'arrange vu que t'as les flics sur les reins. Tu n'hésites pas les mômes, tu les fous sur le terrain. Tu veux pour eux ce que tu ne voudrais pas pour ton fils. Et ta morale ne l'emporte pas sur ton vice. Trop mettre en question, pour toi pas question. Tu fous du monde, des flics et leurs questions. Tu te méfies tout même des sourires. Tu sais qu'en prison, beaucoup voudraient te voir pourrir. De te voir mourir, après t'avoir fait courir. Pour parvenir à cela, ils seraient même prêts à te mourir. Là où les ennemis et les amis se confondent, peux-tu dire qui sur ton sort viendra se morfondre. Les gens t'aiment tant que t'es rentable. T'es réputé mais peu fréquentable. T'es tout car la vie que tu mènes t'étrangle. Tu deviens ouf, tu connais la loi du boomerang. T'es dans la tente de celui qui ne frappe pas mais entre. On dit que tu baisses, pourtant tu vis la peur au ventre. Pas étonnant, y'a pas que les flics que t'as sur le dos. Peux-tu dénombrer le nombre de types qui voudraient ta peau. T'as vu tes ennemis, t'es incapable de les dissocier de tes amis. Car en fait t'as pas d'amis, juste des associés. T'es entouré de gens et rarement seul. Mais surprenant la façon dont tu te sens seul. Ton histoire est triste mais malheureusement t'es pas ni le dernier que l'argent va mener à son cercueil. Car dans ce milieu tu fais rapidement des jaloux. Des mecs qui te voient debout et souhaiteraient te mettre à genoux. Ainsi peu probable que tu puisses avoir une fin heureuse. Tu peux compter les jours en attendant qu'une balle te creuse. Avoue que le quartier t'a eu. Et que comme à l'intérieur à l'extérieur t'es comme détenu. T'es même pas certain de pouvoir assurer une descendance, t'en peux plus.
La nuit tu ne dors plus.
Tu penses aux potes que t'as perdu. T'aurais jamais cru que la vie du roi serait si rodue. C'est émouvant, tu t'enlises dans des sables mouvants. Et tu me fais t'enfoncer à chaque mouvement. T'aimes une femme qui elle aime le calme. Mais ne souhaite pas s'épouser des histoires de shit et de calme. Car te voilà bloqué entre deux. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse le feu. Si t'as des gosses, qu'est-ce que tu vas leur apprendre. Comment se faire respecter, devenir le chef de bande. Leur diras-tu que pour devenir millionnaire y'a pas besoin de diplôme et que papa fut un gangster. Combien de jeunes sur cette route à deux issues. Ainsi vivent beaucoup de mecs d'où je suis issu. Combien d'entre eux n'atteindront pas la trentaine. Au lieu d'un an ou deux et qu'on prend une vingtaine d'années. Là où sont couronnés les condamnés. Faire marche arrière, ils appellent ça déballonné. Mais t'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras buter dès que tu sortiras sans ton feu. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras buter dès que tu sortiras sans ton feu. La mort ou la prison, en d'autres termes, quatre murs ou quatre planches.
T'es prévenu,
y'a pas un voyou qui fasse long feu. T'es prévenu, la rue ne t'offre que deux issues. La mort ou la prison, en d'autres termes, quatre murs ou quatre planches. T'es prévenu, y'a pas un voyou qui fasse long feu. Tu te feras buter dès que tu sortiras sans ton feu. La mort ou la prison, en d'autres termes, quatre murs ou